va continuer sur ce que l'on a partagé vendredi soir et qui était la suite de ce que notre frère Albert a partagé mardi soir. Ça m'a tellement parlé ce que notre frère a apporté mardi, je me suis dit, faut continuer. Alors on va faire une lecture, ça ne sera pas trop long. Dans l'évangile de Matthieu, il s'agit de la naissance de Jésus. Et mardi, notre frère a mis en avant les qualités de Joseph, cet homme extraordinaire, qui est capable d'aimer Marie jusqu'à rompre secrètement avec elle, en tout cas de l'envisager pour ne pas la diffamer. Puis ensuite de supporter le regard, parce que tout le monde n'a pas certainement saisi qu'il y a là le miracle de Dieu. D'autres ont certainement d'autres explications beaucoup plus humaines. Et il faut accepter ce regard des autres, ces difficultés, pour rester fidèle et diriger cette famille. Voilà. Vendredi soir, on a regardé que Zacharie et Élisabeth étaient aussi un couple particulier. Et ce matin, on va reprendre tout cela et aller plus loin. Le message peut-être sera surprenant pour un dimanche de Noël. Néanmoins, on ne peut pas se limiter à se réjouir parce que ce serait oublier la raison pour laquelle cet enfant est né, et pas que lui, Jean-Baptiste aussi. Voilà. Alors le thème du message pourrait être celui-ci, « Ma vie n'est pas normale », entre guillemets, « Seigneur, aide-moi ». Voilà. Donc on va dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Amen. Concernant la naissance de Jésus, les uns sont informés, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, les uns sont informés par une étoile qui se déplace. Et les autres sont informés par la parole de Dieu. Autrement dit, il sera difficile un jour devant le Seigneur de dire « Oh, mais moi, je ne savais pas. Moi, j'ignorais. » Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Sur le fait le plus important de l'histoire de l'humanité, c'est quand il a quitté le ciel de gloire, lui, le Seigneur, pour venir nous chercher et nous sauver. Et c'est un message qui ne peut pas rester inaudible, incompréhensible. Dieu le fait connaître, Dieu le fait savoir de différentes manières, et particulièrement par sa parole. Et vous voyez que tous les scribes et les principaux sacrificateurs n'ont aucune excuse. Ils savent où va naître le Messie. C'est écrit dans la parole. On va dans l'évangile de Luc. Là, on est en train de poser un petit peu les choses. Au chapitre 2, verset 25 et suivant. Et voici, il y avait à Jérusalem, 8 jours après la naissance, ils viennent au temple pour le présenter en tant que premier-né et apporter le sacrifice. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Après Joseph et Marie, ou plutôt dans l'ordre chronologique, Zacharie et Élisabeth, et puis Joseph et Marie, voilà maintenant Siméon. Siméon, son nom signifie qui écoute, qui entend. Il est dit de lui, il est juste, il est pieux, il attend la consolation d'Israël, l'Esprit Saint était sur lui. Autrement dit, cet homme a une attitude spirituelle, et son attitude spirituelle est plus importante que tout. Il vit en ce temps-là, il aurait pu vivre dans un autre temps. C'est l'attitude que Dieu attend de chacune et de chacun d'entre nous. Et elle est plus importante que tout. Anne, qui arrive au temple aussi, son nom signifie grâce. Elle a 84 ans et elle est veuve depuis longtemps. Elle sert Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Elle a une vie spirituelle constante. Et maintenant, on rentre dans le message. Ma vie n'est pas normale, Seigneur. Aide-moi. Alors que pourrait être une vie normale? Une vie sans difficulté d'ordre physique, de difficultés majeures dans sa santé, dans sa famille, avoir des enfants. Zacharie et Anne, c'était pas comme ça. Siméon, il n'est rien dit de lui. Et il ne semblerait pas que pour Anne, elle ait des enfants, elle est veuve depuis longtemps, elle est toute seule. Et normalement, elle devrait apparaître les enfants qui s'occupent des parents. Alors, c'est peut-être avoir une profession intéressante qui nous réjouit avec une rémunération qui va bien. Voilà un petit peu ce que pourrait être une vie normale. Alors, que peut être une vie qui n'est pas normale? C'est une vie où les problèmes de santé sont votre quotidien. La situation de la famille n'est pas celle que l'on aurait souhaité. Non pas qu'on envie les autres, mais on aurait voulu d'enfants qui ne soient pas malades. Avec, je ne parle pas des maladies qui passent de temps en temps, hein, et celles qui durent. C'est peut-être ça, une vie qui n'est pas normale. Une vie avec des soucis au quotidien qui, comme disait le don spirituel tout à l'heure, qui fait que pour l'avenir, on se pose des questions. Voilà. Zacharie, son nom, signifie « l'Éternel se souvient ». Et comme on le disait vendredi soir, il est resté une fidélité. Avec sa femme, ils étaient juste dans tout ce qu'ils faisaient, malgré la difficulté de leur vie. Élisabeth, son nom signifie « Dieu du serment », dans le sens où Dieu est capable de jurer, et je le jure par moi-même, je te bénirai. C'est ce qui est dit à Abraham concernant le sacrifice de son fils. Ils n'ont pas une vie comme les autres, Zacharie et Élisabeth. Ils n'ont pas d'enfants. C'est une douleur dans leur vie. Et puis, quand ils auront un enfant, ce sera un enfant qui n'est pas comme les autres. Jean-Baptiste n'est pas comme les autres. Apparemment, ce sera le seul enfant qu'ils auront. Rien n'est dit concernant d'éventuels frères et sœurs. Mais il n'est pas comme les autres. Regardez-le, quand il devient grand, il vit dans les déserts. Et puis, il s'habille de manière un petit peu particulière, même si à l'époque, il y a une différence de vestimentaire par rapport à nous aujourd'hui. Lui, il est vêtu de vêtements de poil de chameau, ceinture de cuir autour des reins. Puis, il ne mange pas tout à fait comme les autres. Mange des sauterelles et du miel sauvage. Voilà. Joseph, son nom signifie « il ajoutera ». Et Myriam, c'est un joli prénom, quand il n'est pas traduit. Quand il est traduit, il est joli aussi, ça signifie « rébellion ». Obstination, dans le sens spirituel du terme, il y a des choses qu'elle n'accepte pas, et elle se rebelle. Il y a une rébellion, j'oserais dire positive, spirituellement nécessaire. Ne pas abdiquer, ne pas baisser les bras devant des situations. Je refuse. Et ça prend une forme d'obstination. Je persévère dans ce que je souhaite. Cependant, ils auront des enfants qui ne s'entendent pas. Et le Seigneur sait très bien ce que peut être une famille où des frères et sœurs ne s'entendent pas. Et il en sera la victime, d'une certaine manière, au moment le plus difficile de l'histoire d'une famille, c'est quand il y en a un qui meurt. Et là, il n'y a ni ses frères ni ses sœurs à tel point qu'il est obligé de confier Marie à un ami. Et Siméon lui a dit à cette femme, une épée te transpercera l'âme. Quand vous prenez Zacharie et Élisabeth, ils n'ont pas une vie comme les autres. Ils n'ont pas un enfant comme les autres. Quand vous prenez Joseph et Marie, ils n'ont pas une vie comme les autres, pour cause. Il va falloir pour Joseph assumer le fait que sa femme est enceinte, mais ce n'est pas de lui. Il va falloir pour Marie assumer, et elle le fera savoir, mais c'est un miracle, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je n'ai connu personne. Et avec Joseph, on n'a pas encore une vie de couple. C'est le miracle de Dieu. Alors certains vont le comprendre, mais à mon avis, tout le monde ne l'a pas compris, ça a dû jaser dans le voisinage. Ils ont des enfants, mais on le voit de temps en temps lié à la différence par rapport à Jésus. Certainement, ils ne s'entendent pas. Et au moment où elle se retrouve veuve, parce que Joseph n'est plus là, on le réalise, et le fils aîné meurt, c'est pas normal que les enfants partent avant les parents. Il n'a que 33 ans. En ce temps-là, on avait des enfants jeunes, ça veut dire que Marie n'est peut-être pas si avancée en âge que ça. Parce que si elle a eu Jésus à 20 ans, elle n'en a que 53. Si elle l'a eu avant, elle en a un petit peu moins, c'est pas normal. Une épée te transpercera l'âme. Et les difficultés font se dévoiler les pensées de tous les cœurs. Et c'est ce que Siméon avait dit. À cause de ce que tu vas vivre, les pensées de beaucoup de cœurs vont se dévoiler. Mes frères et sœurs, les difficultés font apparaître ce qu'il y a au fond de nous. Que rien d'autre ne peut faire apparaître que les plus grandes difficultés, celles qu'on ne souhaite pas. Et puis c'est comme si, qui se ressemblent s'assemblent, ils vont au temple et ils rencontrent des gens comme eux qui n'ont pas une vie normale. Siméon, il ne lui reste qu'à partir. Il n'attend rien d'autre. Alors du coup, souvent je le dis en plaisantant que quand des personnes âgées disent « Seigneur, prends-moi », il ne faut pas le dire, mais quand même, sinon, il le dit, lui. Maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Il n'attend rien d'autre de ce monde. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être est-il seul, avancé en âge. Et il n'y a rien de pire que d'être dans la solitude, avancé en âge. Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Mais maintenant, je peux partir, parce que mes yeux ont vu ton salut. Et puis, il rencontre Anne. Et Anne, elle ressemble à Élisabeth, d'une certaine manière. Il ne lui reste que le temple. Elle est prophétesse. Ça veut dire qu'elle parle de la part de Dieu au monde. Mais est-ce que le monde l'écoute? Est-ce que le monde la reçoit? Elle loue Dieu et elle parle de Jésus. Mais c'est sûr que ça peut ressembler de temps en temps à un monologue. Et Zacharie et Élisabeth vont avoir un fils. Son nom sera Jean, qui signifie « L'Éternel a fait grâce ». Mais il n'a pas une vie qui est tout à fait semblable aux autres, comme on le disait, vêtu de poils de chameau, de vêtements de poils de chameau, avec une ceinture de cuir. Essayez d'imaginer. Il vit dans les déserts. Alors peut-être que Zacharie et Élisabeth, qui étaient déjà avancés en âge, ne sont plus là. Je pense qu'ils ne sont plus là. Il ne parle pas comme les autres non plus, hein. Parce que ce qu'on entend de lui, c'est quand il s'adresse à la foule qui vient, race de vipère. Mais non, on ne parle pas comme ça. Élisabeth et Zacharie, à mon avis, compte tenu de la qualité de ces personnages, ont dû certainement élever Jean, parce qu'il sera appelé le Baptiste plus tard, et beaucoup plus tard même. Ils ont dû certainement élever Jean d'une toute autre manière. Mais Jean, ne parle pas comme ça. Et puis, ne t'habille pas comme ça. Et puis, il y a une maison quand même. Pourquoi tu vas vivre dans les déserts? Mais on l'entend quand les gens s'adressent à lui. Il dit, partage avec celui qui n'a rien. Aux autres, aux péagers, collecteurs d'impôts, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été demandé. Aux militaires, il dira, ni extorsion, ni fraude. Et puis à Hérode, il lui dira, il n'était pas permis d'avoir ta belle-sœur pour femme. Et ça, ça va lui coûter la tête. Je ne veux pas verser dans un message qui ne soit pas heureux, néanmoins, avoir un enfant, un seul, qui finit décapité, ce n'est pas une vie normale. Ce n'est pas normal. Sa tête fut apportée sur un plat. Je souhaite que Zacharie Et Élisabeth n'était plus là pour entendre ça. Ça va faire un choc à Jésus, parce qu'ils sont de la même parenté. Élisabeth, ta parente, est dans son sixième mois, elle a conçu l'enfant qui vient de Dieu. Et comme on en parlait vendredi, quand dans nos vies qui ne sont pas normales, nous nous adressons à Dieu parce que nous souhaitons son aide, sa grâce, sa réponse à nos prières, c'est comme si nous faisions monter vers lui quelque chose d'ordre spirituel. Et quand ce qui est de nous vient rencontrer ce qui vient de Dieu, alors il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Non seulement ils ont eu l'enfant, mais cet enfant sera le plus grand prophète que le monde ait jamais connu. Et Jésus le dira de lui. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Je vous dis que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Et il parlait de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus, sa vie n'est pas normale. Il naît pour être crucifié. Et lui, c'est écrit à l'avance. Un petit peu comme pour Jean-Baptiste. Et non seulement il est crucifié, mais il est crucifié devant sa mère. C'est pas normal. Tous ces gens-là n'ont pas eu une vie normale. Et je voudrais que, dans cette matinée, nous puissions les uns et les autres être encouragés par ce que le Seigneur a mis en avant, la grâce qu'il a manifestée à des gens qui n'ont pas eu une vie normale. Mais au travers de ces gens qui n'ont pas eu une vie normale, de ceux qui souhaitaient un enfant, puis auront un enfant, et cet enfant sera le plus grand prophète que le monde ait jamais connu. C'est vrai que la fin est particulière, mais elle est liée à l'œuvre de la croix. Je voudrais que ceux qui cherchent la direction de Dieu puissent être encouragés, parce que, à l'instar de Siméon et de Anne, si nous savons ne rien attendre de ce monde, et simplement dire, Seigneur, tout vient de toi. L'important pour moi, c'est que mes yeux voient ton salut. Et comme Anne, eh bien moi je parle de toi aux autres. Je suis bien consciente que de temps en temps, ils m'écoutent avec politesse, et puis de temps en temps, ils ne m'écoutent pas du tout. Ils n'en ont rien à faire. Mais moi, je te loue et je parle de toi au monde qui se meurt. Parce que toi, tu es venu pour chercher et sauver cela. Alors, quand Jean est décapité, Jésus, c'est difficile pour lui. Il va se retirer quelques instants. Je suis sûr qu'ils se connaissaient, qu'ils se sont vus. Compte tenu que leurs mères parentes se sont vues pendant qu'elles étaient enceintes l'une et l'autre. Alors, il serait vraiment surprenant que Marie n'ait jamais rien dit à Jésus concernant Jean et qu'Élisabeth n'ait jamais rien dit à Jean concernant Jésus. Certainement qu'ils se sont vus, mais ils se sont vus d'une manière particulière parce que Jésus savait pertinemment ce qui allait arriver. Pas Jean, mais Jésus savait pertinemment ce qui allait arriver. Ils n'ont pas eu une vie normale. Alors, aujourd'hui, c'est Noël. Et c'est la grâce de Dieu pour tous ceux qui n'ont pas une vie qui est dans une forme de normalité. Néanmoins, le Seigneur connaît, le Seigneur prend soin de ceux qui ne sont pas comme les autres pour X raisons, et il va les bénir, parce qu'il se fait un point d'honneur à bénir ceux qui attendent la délivrance, ceux qui attendent la bénédiction, ceux qui attendent avec espérance l'éternité, parce que les choses telles que nous les vivons aujourd'hui ne sont limitées qu'à quelques années. C'est sûr qu'on est en plein dedans pour le moment. Et ce n'est pas ça qui nous console. Néanmoins, elles ne sont dans cette situation que pendant quelques années. Pour l'éternité, il y aura une consolation qui fait dire à l'apôtre que ça ne peut même pas être comparé, ce que nous vivons aujourd'hui, à la gloire à venir. Alors, on va terminer avec ces paroles du Seigneur dans l'évangile de Matthieu. Et je suis sûr que ces paroles, elles s'adressaient aux auditeurs immédiats, dans Matthieu 5, mais elle s'adressait certainement à ceux que Jésus connaissait pour avoir une vie particulièrement difficile. Et il leur dit ceci, c'est le premier discours, celui sur la montagne, comme on dit, dans Matthieu chapitre 5, au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ce qui procure la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dieu est avec nous.
Amen.
Dans nos vies qui ne sont pas tout à fait dans une normalité que l'on aurait souhaité. Mais le Seigneur sait ça. Parce que tous ceux qui l'ont servi, et tous ceux dont il s'est servi, eh bien, il n'y en a pas un qui a une vie normale. Vous le prenez, comme on a parlé tout à l'heure. Mais ils ont été l'objet d'une attention particulière de la part du Seigneur. Alors le message de Noël aujourd'hui, c'est on ne va pas se réjouir comme le monde se réjouit, parce qu'à mon avis, ils sont complètement décalés. Mais nous nous réjouissons de ce que Dieu est avec nous. Que son nom soit béni. Alléluia.